Salut à tous. Un bon début de semaine à tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, hier, j'ai écouté sur YouTube un documentaire fait en France pour M6, si je ne me trompe pas. C'est gratuit, ça dure 45 minutes. Sur le making of, puis l'impact de Top Gun, le premier et le deuxième. Donc, vous pouvez trouver ça si vous faites Top Gun M6. C'est beaucoup des journalistes qui couvrent le cinéma qui nous racontent des trucs, là, si tu veux. C'est en français, c'est intéressant. Puis t'apprends plein d'affaires sur la première édition, en 86. Puis sur le dernier, sur comment... tu vois des affaires vraiment qu'on doutait pas. Exemple, quand le bruit a couru qu'il y avait un casting pour le prochain Top Gun, mais qu'il fallait éventuellement piloter pour vrai un avion de chasse. Il y a plein de monde qui ont fait, tu sais, ça a l'air que ça n'a pas poussé aux portes. Ça fait que c'est une des raisons pour laquelle c'est un casting très jeune. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir des vedettes montantes plus connues, mais il y en a plein là-dedans qui ont dit, hey, moi, je peux même pas me rendre en Floride en avion, oublie ça, je vais pas conduire un jet. Puis ils montraient tout l'entraînement dans des piscines, etc. C'était vraiment malade. Je vous parle de ça parce que je suis retourné en fin de semaine voir Top Gun pour la troisième fois. Oui, vivre avec sa maladie. Je l'ai vu quand il est sorti. Je l'ai revu le lendemain. Donc, ça fait quand même, je ne sais pas, 2 mois peut-être. Puis là, avec la chaleur, tout, moi, j'ai fait du vélo pareil, samedi et dimanche. Je faisais chaud en tabac. Samedi, là, en fin de journée, quand je suis revenu, 3-4 heures, là, c'est peut-être la fois où c'est le plus chaud de mémoire. Puis là, je vous parle que moi, j'ai fait du roller en Floride en plein été. C'était pire que ça, je pense. Dans le sens que l'humidité en Floride, c'est imbattable. Genre, c'était incroyable. Mais en termes de chaleur absolue, la chaleur absolue que j'ai vécue, c'était Las Vegas. Ça, c'est le premier voyage que j'ai fait de ma vie. J'avais 21 ans. J'étais allé à Los Angeles pour 2 semaines. J'ai connu 2 Allemands, Gunther et Raimund, des gars qui avaient mon âge dans ce temps-là, un petit peu plus vieux. Eux autres, ils s'étaient acheté un gros Dodge brun molle des années 60 pour genre 200$. Puis ils arrivaient de je sais pas où. Il y avait des Allemands dans les auberges de jeunesse en Californie. C'était fou. C'était tous des Allemands puis des gars de la Nouvelle-Zélande. Beaucoup. Des gars puis des filles. Hein. C'était vraiment très, très partagé. C'est que moi, j'ai connu ces deux gars-là à l'auberge de jeunesse de Venice. Puis à un moment donné, ça marche toujours demain dans les auberges de jeunesse. C'était des petits babillards avec hey, demain, on part, on se plaît le gaz, on s'en va là, qui veut venir. C'est vraiment une belle expérience d'ailleurs. C'est qu'on avait traversé le désert de je sais pas quoi. Qui nous amène au Nevada, tu sais. Ça prenait 5 heures d'auto, je me souviens bien. On était au mois d'août, puis c'est la chaleur la plus mordante que j'ai vécue de ma vie, c'était Las Vegas au mois d'août. Il faisait 100 quelques degrés avec zéro humidité. C'est carrément... Tu sais, là, quand tu vas dans des terrasses à Paris ou n'importe où, où ce que tu as des éléments rouges au-dessus pour chauffer une terrasse extérieure, là, ben c'est comme si tu as juste ça partout. Le ciel au complet, c'est un élément rouge qui tombe dessus instantanément. Puis ce que tu fais, tu es sur la strip, là, puis tu te promènes d'un casino à l'autre pour avoir l'air clim. Tu rentres dans un casino, là, tu fais tout le casino, puis après ça, tu sors, tu traverses un petit peu, tu rentres dans l'autre casino. Si quelqu'un n'a pas vécu, c'est quoi? Vegas, l'été, toute chaleur est un peu anecdotique. Bien, ce qui vient changer la donne, c'est quand c'est très humide. Fait que ça l'était aussi, mais je vous dis, en Floride, c'est vraiment furieux. Là. Fait que c'est une recommandation que je vous fais parce que c'est un film que je trouve qui est à quelque part... D'ailleurs, sujet qui n'est pas mon sujet principal, mais je pensais à ça hier. J'ai envoyé beaucoup de monde dire « Va voir Top Gun » et je le maintiens total dans le genre. Il faut bien commencer par « dans le genre », c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que il faut que tu acceptes l'idée qu'un chef-d'œuvre, c'est-à-dire, c'est un peu la perfection dans sa catégorie. Et moi, je dis que dans les films d'action, c'est un chef-d'œuvre. C'est au niveau, je l'ai dit en sortant la première fois, c'est au niveau d'Indiana Jones, qui est, pour le premier, à tout le moins, un chef-d'œuvre. Alors, si tu me dis, mais voyons, les chefs-d'œuvre, il faut que ça soit des grands films, là, comprends-tu, c'est les films de Godard, c'est les grands films d'Audard, c'est uniquement un stéréotype. C'est zéro. Je suis allé voir le dernier film de Jordan Peele, là, que toute la critique encense sur une invasion d'extraterrestres. C'est très ordinaire. Sauf que, étant donné que c'est Jordan Peele, étant donné qu'il est à la mode, étant donné qu'il fait des affaires un peu flyées, le film n'est pas sorti que les critiques trouvent que c'est donc bon. T'sais. Ben moi, pardon, mais je rentre pas là-dedans. Ça fait que ça peut être très bon ou très ordinaire ou très whatever. Ça dépend, ici, maintenant, le film en question. Comme en toute chose, d'ailleurs. Il y a personne qui est tout le temps bon dans tout ce qu'il fait. C'est comme arrêter, là. Cette espèce de préjugé-là qu'on fait d'avance parce que ça rentre dans une espèce de case avec un certain aura. Donc, oui, tu peux être un chef-d'œuvre de quelque chose qui est extrêmement populaire. Je veux dire, Britney Spears, qui est arrivée avec One More Time, le Baby Do It One More Time, on peut arguer que c'est un chef-d'œuvre de pop musique ou du Lady Gaga. Comprends-tu? Parce que sinon, ça veut dire que chef-d'œuvre, c'est un mot vide de sens. Il faut que tu sois capable de dire que ce qu'il y a de mieux dans une catégorie n'est pas nécessairement un chef-d'œuvre, mais que c'est possible. C'est pas juste Michel-Ange puis Rembrandt, tu sais, c'est n'importe quoi. Donc, moi, je trouve que, sérieusement, faire mieux que Top Gun dans le film d'action, c'est virtuellement un peu impossible. Là, dans le film d'action, pas le film de fiction, pas dans Star Wars. Bon. Et là, je me fais dire par du monde qui sont allés, « Oui, ah oui, c'est vraiment un bon divertissement d'été. Ça m'insulte, là. Ça me vient me chercher, vous avez aucune idée. Un bon divertissement d'été. » Non! Pourquoi d'été? What the fuck? C'est excellent le 23 février, ce film-là. C'est tellement plein de préjugés. Puis mettez-vous à la place du réalisateur, là, tu sais, puis de l'équipe de prod, puis tout le monde, qui font des efforts, là, comme hallucinants, qui a créé un film avec des tu sais, toutes les scènes d'avion qui sont toutes réelles. Tu fais comme, hein, c'est donc bien malade, tu sais. Puis là, c'est un bon petit divertissement. En tout cas, venez jamais me dire ça, là, parce que ça me fâche. Alors, voilà. Bref. Alors, hier, annulation de la fierté gay, du défilé, de la fierté gay. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Information numéro un de mes amis m'envoie, me dit ça, il dit « Hey, as-tu vu que le défilé... » Et lui, sa théorie, c'est que il y a pas assez de participants. Il dit « Ah, oh, ça doit être les événements post-COVID. Les gens, d'après moi, ils sentent plus le besoin de se rassembler ou telle affaire. » De un, je sais pas pourquoi il pense à ça. Comme s'il faut avoir des théories sur tout. Je sais pas pourquoi il pense à ça, mais bref, il a le droit. Deux, c'est un autre exemple où tu vois comment les gens peuvent faire des réflexions basées sur un manque d'infos. Parce que précisément, c'est qu'il n'y avait pas assez de bénévoles pour assurer la sécurité. La sécurité, c'était pas assurer la sécurité claque sa gueule. C'est bloquer des rues, par exemple, etc. Faire en sorte que le défilé, il passe, puis il n'y a pas de... Alors aujourd'hui, il y a plein de nouvelles informations par Mario Girard dans la presse, parce qu'il a parlé aux responsables de Fierté Montréal. Puis ils ont même pas calé suffisamment de monde d'avance. T'sais, c'est pas genre, on n'a pas trouvé, c'est un problème. Ça a été oublié, là. Il y a vraiment quelqu'un qui l'a échappé. Mais point numéro un, tu vois comment c'est intéressant que les gens, puis là je te parle de quelqu'un de très instruit, très au fait des nouvelles, etc., les gens, tout à coup, ont une bribe d'infos, puis là, tirent leurs propres conclusions, ils vont avec leurs propres théories, alors que ça n'a rien à voir. Parce que lui, ce qu'il sous-entendait, c'est qu'il y avait un manque de participation. Non. Toute la fin de semaine, là, c'était l'espèce de fête au village, là, justement. Puis il y avait de la participation à mort, là. Ça marchait au coton, là. Ce qu'on m'a rapporté, là. Moi, je suis pas un client de ça, mais bon, bref. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, c'est très drôle de dire qu'ils ont refusé l'accès à des policiers qui eux-mêmes s'identifient comme étant gays ou whatever. Donc, une espèce de non, la police, on vous trouve pas encore fin. Puis que la police n'a rien à voir dans cette histoire-là de sécurité. Parce qu'encore là, il y avait des fins finaux dès le départ qui disaient « Ah, ben là, ça, c'est la police de Montréal qui a pas fait sa job. » Non, non. Ça fait que c'est drôle de les refuser d'un côté. Puis de l'autre, de faire en sorte qu'il y ait un problème pour gérer la sécurité. Mais le point qui est le plus intéressant là-dedans, c'est l'idée de l'identification par le sexe lui-même. C'est-à-dire que... Voyez-vous, moi, personnellement, là, alors je vais poser une question, puis je connais la réponse. Mais je pose la question pareil. Pourquoi l'orientation sexuelle est si importante sur son identité propre? En un mot, quand est-ce que moi, si quelqu'un me demandait « T'es qui, toi, Marc Boilard? » ou « Qui est cette personne là-bas? » quand est-ce que je procéderais dans ma liste avec mon orientation sexuelle? À vrai dire, je procéderais même pas par ma couleur, la famille de ma provenance, la religion, ce qui sont des marqueurs identitaires habituellement. Moi, ça me parle pas, ça. Moi, pour moi, l'identité, c'est le profil de la personne, incluant notamment ses intérêts. Donc, quand je dis profil, moi, je vois trois grands profils d'envie. Quand quelqu'un a des enfants en bas âge, la question qui m'intéresse le plus, c'est toujours de leur demander, c'est quoi son profil à ton jeune? C'est-tu A, un artiste, B, un intellectuel, ou C, un manuel? C'est ça pour moi les trois grands profils, c'est-à-dire des créatifs, des intellos, des cracks d'informatique du monde, ou des manuels. Fait qu'il y en a qui vont faire des dessins, il y en a qui remontent des horloges, qui chantent, puis il y en a qui jouent au ballon, des sportifs. C'est ça. C'est plus artiste, intellectuel, sportif. Mais tu peux rajouter une quatrième catégorie manuelle. Alors évidemment, tu peux être plusieurs, tu peux être rien qu'une, une majeure, mineure, là, bon. Mais pour moi, c'est ça un individu. Alors après ça, oui, je peux dire que je suis blanc. Je peux dire que ma famille était catholique, que moi, je trouve que j'ai été élevé dans des préceptes catholiques très bien. Moi, je suis très d'accord avec ça. Blablabla, tu sais, mais dans toute la liste, jamais je dirais « Ah oui, by the way, je suis hétérosexuel. » Alors, je dis pas que c'est pas un marqueur identitaire, ça en est un. Et je connais la réponse pour laquelle, moi, je pense pas à ça, c'est que je fais partie de la majorité. J'ai jamais été confronté à ça. Que si j'étais homosexuel, puis que c'est comme « Oh mon Dieu, faut-tu que je le dise? » Alors, je le comprends, hein? Je vous le dis tout de suite, mais je pose la question pareil. Parce que je trouve ça quand même spécial que ce soit si fort. C'est ça que je trouve spécial. Puis encore une fois, je le vis pas. Ça fait que je peux juste m'y interroger. Mais je trouve ça spécial l'orientation sexuelle... Tu sais, comme là, tout à coup, quand ça partit, là, toutes les queer, LG, là, quand les lettres se sont rajoutées, tu sais... tu voyais ça sur Instagram, là. Beaucoup les filles, là, les Jessie Nadeau de ce monde. Oui, je suis comme ça, puis là, je suis binaire, puis... Il y a quelque chose que je comprends pas, non pas à dire, OK, il y a quelque chose de fondamental chez moi que j'ai pas à cacher, de tout temps, on ne peut plus d'accord, mais c'est haut dans la liste de ce qui fait qu'on décrit voici qui je suis. Pour moi, je trouve que c'est haut. La façon que moi je suis conçu, voyez-vous, puis vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, j'arrive à un point. La façon que moi je suis conçu, ça fait pas partie de mon... Puis ça fait encore moins partie de ma fierté. Je suppose que quelqu'un qui est un vrai homophobe a en contrepartie une réelle fierté, le ressenti, à son orientation sexuelle. Moi, zéro. Moi, j'ai pas une once de gay, ça m'attire zéro, les gars. J'ai aucune fierté à dire, moi, je suis attiré par les filles. Puis d'ailleurs... C'est un peu épais, cette idée-là, d'une certaine fierté, parce qu'on ne choisit pas. L'attirance n'est pas un choix. Ça fait 20 ans que je le répète. Ça fait que ça illustre très bien la totale légitimité d'être attiré par qui que ce soit. Mais ça légitime aussi les goûts hétérosexuels goffés. Si vous êtes conséquent avec cette phrase-là, vous en profitez pour dire, garde, c'est la preuve que les homosexuels, ils ont le droit, c'est pas une maladie, whatever, parfait. Bien, c'est la preuve aussi qu'un gars peut dire, hey, moi, je suis attiré au bout par les grandes blondes minces avec une grosse paire. Moi, ça me fait triper. Oh mon Dieu, qui est stéréotypé? Ben, pardon. Qu'est-ce que moi, c'est ça? Il y en a d'autres, c'est autre chose. Il y en a que c'est ça, d'autres, comprends-tu? Chacun sa patente. Pourquoi? Parce que l'attirance, c'est pas un choix. Je veux dire, il y a personne qui se couche là. Il y a personne, tristement d'ailleurs, qui pogne pas. Tu sais, mettons, là, moi, j'ai connu des gars là, qui étaient tout le temps en train de viser au-dessus de leur ligue. Ils peuvent pas se coucher le soir en disant « Bon, OK, j'ai compris, il y a le petit laidron là, qui travaille au dépanneur, là, je vais aller assis de croûte. » Non! Je veux dire, à moins que tu sois vraiment dans une dynamique de résignation complète, donc que tu dis « Je vais me matcher avec peu ou pas d'attirance. » Je sais pas comment on fait pour faire ça, mais en tout cas, bref. Tu peux pas, tout à coup, te driller à dire « OK, attention, exercice. » Ce que j'aime, c'est les zéros, j'aime ça. Check-moi le laidron, c'est ça, je trippe quand même malade. Ça se fait pas. Donc, l'attirance, c'est pas un choix. Mettre dans votre tête, c'est de même, c'est tout. Fait que c'est vrai pour l'orientation sexuelle, c'est vrai pour entre hétéros et tout. Donc, moi, ma question, voyez-vous, c'est comment ça se fait que certaines personnes ont un très fort facteur identitaire personnel avec même une fierté, hein, ça s'appelle Fierté Montréal, pour quelque chose que moi me laisse relativement de glace par rapport à moi. C'est comme, voilà, j'ai deux bras et je suis hétérosexuel. Je suis pas fier d'avoir deux bras. Chanceux, j'aimerais mieux deux que... Je serais pas content d'avoir rien qu'un. Comprenez-vous? C'est vraiment... Alors, ça m'amène à mon point aujourd'hui, parce que quand j'ai vu ça hier, c'est vraiment ça que j'ai... C'est toute l'idée de l'identité. Il faut vraiment réaliser à quel point l'identité, c'est constant. Des fois, il y a un pic d'intérêt qui rejoint une large portion de la population puis qui est plus médiatisé. Mais de tout temps, partout sur la planète, l'identité a tout le temps été centrale et un conflit permanent dans une population. Et ne pensez pas que identité, c'est... Parce qu'il y a toujours deux vecteurs qu'on pense étant identitaires. C'est ethnique, c'est-à-dire les musulmans, les noirs, les blancs. Mettons, là, les Chinois, mettez qui, toute l'ethnie de n'importe qui où. Et la langue. Donc ici, là, le conflit ethnique, le conflit, pardon, identitaire au Québec, il est principalement linguistique. Au Canada, il est principalement linguistique. Puis au Québec, il est à Montréal, il est principalement linguistique. La loi 21, la loi 101, c'est là que ça se pogne. On peut-tu, est-ce qu'un devrait le cégep, la patente, le l'anglais, bra bra bra. Au niveau ethnique, bon, quand tout à coup t'amènes la loi 21, les signes religieux, tout ce qui est l'islam, comme un peu partout d'ailleurs en Occident, c'est toujours, c'est sujet à frottement, mais à partir du moment où il y en a ici, il n'y en a pas tant, puis que t'as, par exemple, par contre, à Paris, les banlieues à Paris sont extrêmement islamisées, c'est très, très musulman, affiché d'ailleurs, tu sais, c'est pas musulman habillé en jogging tout le temps, ça fait que t'as des quartiers, bon, c'est que là-bas, c'est un autre truc. Mais ici, c'est comme, ben, voilà une fille qui a un voile, voilà. Tu sais, sérieusement, alors, quand tu te mets à parler de ça, ben là, t'as tout le bon raciste de service qui, lui, se sent trigger. Mais dans la vraie vie, il reste probablement dans une ville où il n'en a jamais vu lui-même, tu sais. Mais ça va au-delà d'eux. C'est très aussi religieux. Exemple, l'Irlande. L'Irlande, la toune, vous le savez peut-être pas, mais la toune de U2, Sunday Bloody Sunday, c'est-tu Sunday ou Monday? Monday, Bloody Monday, Sunday. Je pense que c'est Sunday. En tout cas, c'est une manif qui a mal viré entre protestants et catholiques, puis ça s'est tiré dessus. Puis l'armée était là, puis bon. Puis depuis ce temps-là, il y a des tensions épouvantables en Irlande entre des gens qui ont exactement la même histoire, les mêmes racines. Hein? C'est pas genre, ah, il y a 200 ans, eux autres sont arrivés de là-bas. Zéro. Mais il y a eu un schisme religieux. Puis dans la chrétienté, qui a plein de départements d'ailleurs, l'anglican, il y a les protestants, les anglicans, qui est la base du conflit entre les Anglais et les Français en Europe. C'est pas tant la langue que le fait que tu avais des catholiques, c'est-à-dire les Français, et des protestants, qui étaient les Anglais. Ça fait que c'est vraiment ça. Donc l'identité, c'est ce qui fait les lois sur l'immigration, c'est ce qui fait les lois linguistiques, etc. Et juste, moi, mes interrogations d'aujourd'hui, quand je fais « Hein, c'est drôle, moi, mon orientation sexuelle, bof. » Mais pour d'autres, ça les définit parce que longtemps, il a fallu que ça soit caché. Puis là, tu fais « Pourquoi faudrait-je cacher ça? » Puis, à raison, hein? Mais tu te rends compte que c'est une énorme question de sensibilité, énorme, qui fait en sorte qu'on n'a même pas les mêmes critères sur lesquels on dit « Voici mon identité. » Moi, tantôt, je vous ai fait part des miens. Moi, là, c'est le profil, les champs d'intérêt. Donc, c'est très relié à l'individu, à ce avec quoi il connecte avec son entourage. Mais il y en a d'autres qui ont le droit de dire, moi, c'est mon histoire, c'est la famille d'où je viens. Tout ce qui concerne l'identité, c'est extrêmement varié et c'est totalement flexible. Donc, c'est inévitablement un sujet de clash. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir au moins cette perspective-là, parce que quand vous voyez l'actualité sur ces sujets-là, quand je vous parle, par exemple, de lois qui touchent la langue, l'immigration, etc., ben, il y a tout le temps un sujet en sous-texte qui est « C'est quoi ton identité? » Alors, évidemment, pour les multiculturalismes qui sont complètement à gauche, voire extrême-gauche, l'identité, c'est un concept à la rigueur qui n'existe même plus. Alors, c'est faux. Eux-mêmes ont une identité, ils sont capables de te la dire, mais ils vont considérer que nous sommes tous, on appelle ça des universalistes. C'est-à-dire que nous sommes tous un grand peuple qui vient tous d'Afrique il y a 100 000 ans. Bon, parfait. C'est-à-dire, quand tu es dans cette mouvance-là, ben, bien entendu, tu ne vois pas de problème à rien. c'est comme tout le monde, c'est une seule grande soupe, voilà, tout va bien. Quand tu regardes les résultats de ça, bien souvent, les gens, ils veulent vivre entre eux autres. Il y a eu plein d'expériences de faire en sorte que dans les banlieues de Paris, par exemple, dans les cités, on appelle, où ce qu'il y avait au départ une certaine mixité, puis finalement, quelques années plus tard, bien, tout le monde du Gabon vit dans un building, tout le monde du Sénégal vit dans un building. Peut-on reprocher aux gens de vouloir vivre avec les gens? C'est le même dans tout, partout. Ici, à Blainville, il y a un quartier, c'est tous des Juifs hassidiques. Il y a des quartiers très musulmans. Pourquoi? En quoi c'est épouvantable? En quoi c'est épouvantable? Je veux dire, après ça, ben, il y a des lois pour faire en sorte que, hop, palaille, tu veux qu'il y aille. Puis encore là, quand je dis tu veux, c'est tout sujet à débat, tout. Tu dis, ouais, non, mais il faut garder, on a une culture. En France, ce débat-là est extrêmement fort. Éric Zemmour a comme brassé cette soupe-là pendant l'élection présidentielle, où est-ce qu'avant, pendant des années, des décennies, c'était tabou de parler de l'identité française, de dire que c'était un pays principalement blanc et catholique d'origine. Alors, bien après ça, évidemment, les choses se sont mixées, puis on est ailleurs. Mais c'est tout le temps, des questions qui sont à débat, des questions qui touchent les sensibilités. Donc, on n'est vraiment pas « voici, je vais tout vous trancher ça, donne-moi toutes tes coordonnées, je vais te rentrer ça dans un fichier Excel, m'a pesé sur Enter, conflit terminé. » C'est de l'humanerie à son meilleur. Puis, je trouve que quand tu as cette perspective-là de dire « OK, il y a de l'identité un peu partout là, dans l'actualité », ben tu te rends compte que... Puis, tu n'es pas obligé d'être... Tu n'es pas obligé d'avoir... une définition très claire, puis de devenir un militant, tu peux, mais t'es pas obligé pour avoir le petit recul que moi je trouve qui est intéressant, qui permet de voir un peu ce qui se passe en disant, ah, tu vois, le sous-texte de cette infamie-là, quand Legault a dit, ah, le Québec pourrait devenir la Louisiane. Là, c'est comme, c'est épouvantable. T'as fait, pourquoi c'est épouvantable? Je rêve-tu où la Louisiane était francophone? Donc, pourquoi c'est potentiellement impossible que ça arrive? Bien, ça touche les sensibilités des gens qui essayent de faire en sorte qu'ici, qu'on ait un certain bilinguisme, puis qu'à mon ordre, bla, bla, bla. Alors, voilà. Donc, ce matin, c'était ça que j'avais le goût de vous jaser. Puis regardez bien, vu que j'entends que la toune finit, check ça. Salut tout le monde. Bonne journée. À demain. Aïe, aïe. Là, tu capotes, là. Fondu. Off. Yeah.